nous voulons invoquer le nom de notre Seigneur. Ô Dieu, tu es notre Père. Et nous voulons prendre conscience de tout ce que nous avons en toi, de cette merveilleuse relation que nous pouvons avoir avec toi, n'étant plus dans ce monde des orphelins, mais pouvons dire, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ est devenu notre Dieu et notre Père. Et c'était en contemplant la vie de ton Fils unique que nous pouvons savoir ce que tu peux être pour nous, tes enfants d'adoption, que tu chéris et que tu aimes, car tu nous as prouvé ton amour afin de nous adopter pour toi. Tu as envoyé ton unique qui nous a aimés d'un amour si grand qu'il s'est donné pour que ta justice et ta sainteté soient satisfaites et que nous puissions occuper près de toi une place semblable à celle de ton Fils bien-aimé. Être à ses côtés et savoir que lui n'a pas honte de nous appeler ses frères, et qu'il peut te dire, me voici, moi, et les enfants que tu m'as donnés, que nous puissions jouir en ce moment de cette relation bénie d'enfant avec notre Père des cieux, cette relation que rien ni personne ne pourra jamais briser. Sois loué, sois béni, et que ton sceau nous marque par la puissance de ton esprit en ces instants, pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, mes bien-aimés, dans ce dernier message sur les caractères de la vraie foi, qui sera l'introduction à notre culte d'adoration, je voudrais attirer votre attention sur un passage qui se trouve dans la seconde épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, au chapitre premier, c'est un passage qui a profondément marqué ma vie, et j'ai entendu souvent mon bien-aimé Père méditer jusqu'à la fin de ses jours sur ce chapitre et sur ces versets pour lesquels il avait une affection particulière. Et je demande aussi à Dieu que ces textes trouvent un écho dans votre cœur et que vous puissiez encore y découvrir les traits d'une véritable vie chrétienne, les caractères de la vraie foi, d'une foi authentiquement chrétienne. Voyez-vous, mon cœur voudrait que vous puissiez partir de ce lieu dans la joie. Je ne sais pas tout ce qui se passe en vous, dans vos pensées, mais je demande ardemment au Seigneur que s'il y a encore une délivrance qui doit être opérée, qu'elle vous soit donnée dans ces instants par la puissance du Saint-Esprit, et que personne ne part d'ici déçu. Oh, de moi vous pouvez l'être, mais pas du Seigneur. Du Seigneur qui a été au milieu de nous et qui est au milieu de nous, et nous allons nous souvenir de lui comme peut-être jamais encore nous l'avons fait, dans une communion vivante, dans une communion réelle avec lui qui nous a tant aimés, puisque Jésus, avant de quitter les cieux, a exprimé un désir en instituant la Sainte Cène. Eh bien, il a dit, faites ceci en mémoire de moi, puisque nous savons qu'il a dit cela, et qu'il a exprimé ce désir, que nous répondions vraiment à son invitation. Je crois que ce sera un témoignage si nous pouvons dire aujourd'hui, bien, oui Seigneur, je réponds à ton désir, je m'approche de ta table, de cette table sainte, et je participe à ce repas que toi tu as institué. Je prends ce pain qui est l'expression de ton corps donné pour nous, et je participe à cette coupe qui nous parle de cette nouvelle alliance en son sang. Pas besoin de donner des définitions sur les mots du Seigneur, nous voulons les retenir dans leur sens le plus profond et le plus simple. Quand Jésus a pris le pain, il a dit, prenez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et puis, en prenant la coupe, il a dit, ceci est mon sang qui est versé pour la rémission des péchés de plusieurs. Eh bien, nous voulons réellement, spirituellement, vivre cette communion au corps et au sang, c'est-à-dire à la vie même et du Seigneur. Alors, nous lisons maintenant ce chapitre premier de la deuxième épître de Pierre. Simon Pierre, vous savez qui est cet apôtre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, littéralement c'est esclave de Jésus-Christ. Il aime s'appeler ainsi. Lui, le grand confesseur de la foi chrétienne, celui qui a pu répondre à Jésus, à Césarée de Philippe, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais pour qui est-ce qu'il se prenait ensuite? Il se prenait pour un esclave de Jésus-Christ. Jésus avait complètement captivé son cœur. Oh, comme je demande au Seigneur que vous puissiez repartir d'ici en ayant le cœur captivé par le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui alors qui fera tout. Même si on a parlé des œuvres, ces œuvres dont il a été question, qui est-ce qui va les accomplir en vous? C'est lui. Toutes nos œuvres, c'est toi qui les accomplis pour nous. Puis on n'a pas besoin de se demander, mais quelle œuvre est-ce que je vais faire pour le Seigneur? Il est dit qu'elles sont préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Non sur le principe des œuvres, mais par la foi. Mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres, œuvres que Dieu a préparé d'avance. C'est pas nous qui fabriquons les œuvres, Dieu les a préparées et il nous demande seulement d'avoir les yeux ouverts et d'entrer dans ces bonnes œuvres qui sont peut-être des petites choses, mais si nous commençons d'être fidèles dans les petites choses et d'avoir vraiment les yeux ouverts, nous saurons ce que le Seigneur attend de nous quotidiennement, heure après heure, moment après moment, puisque toute notre vie doit être une vie de foi, une vie de dépendance. Eh bien, ce Simon Pierre se disait heureux d'être l'esclave ou le serviteur de Jésus-Christ. Mais il était en même temps son apôtre, c'est-à-dire son envoyé. L'envoyé de Jésus-Christ. Et à qui écrit-il Nous pouvons voir dans le premier chapitre de la première épître de Pierre qu'il écrit à des croyants qui étaient dispersés un peu partout. Et vous, vous allez de nouveau vous disperser. Il y en a qui retourneront à Ottawa, à Hall, il y en a qui iront à Joliette, il y en a qui iront à Val-David, ou que sais-je encore, à Saint-Bonaventure, il y en a qui iront à Montréal. Eh bien, où que nous soyons, le message est pour nous. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Oh, que j'aime cette expression. Nous avons reçu en partage, dit Pierre, une foi qui a le même prix que la sienne. Nous avons, est-ce que vous êtes conscient de cela, la foi que vous recevez de Dieu quand vous l'acceptez, parce qu'il ne vous contraint pas, mais quand vous ne faites plus obstacle à la pensée de Dieu et que vous vous laissez pénétrer par sa parole, eh bien, cette foi qui est la vôtre aujourd'hui en 1984, elle a quel prix ? Elle a le même prix que la foi des apôtres. Et comme c'est Pierre qui écrit cela, et qu'il est nommé le premier des apôtres, on peut dire que la foi de chacun d'entre vous a le même prix que la foi du premier des apôtres. Nous avons une foi du même prix que celle de Pierre. Croyez-le. Alors avec cette foi-là, cette foi que Pierre a reçue, et pourtant Pierre, vous vous souvenez de ce qu'il a été, tout n'a pas été beau dans sa vie. Vous vous souvenez qu'il a renié le Seigneur Jésus, même après avoir pris la communion, la Sainte Cène. Il a renié dans la même nuit le Seigneur avec imprécation en disant à trois reprises, je ne connais pas cet homme qui lui avait pourtant lavé les pieds quelques moments avant. Vous voyez comme la chair est faible et reste faible. Mais Jésus avait dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Le Seigneur aussi a prié pour vous, pour que même quand vous serez de nouveau dans vos occupations et qu'il y aura toute espèce de tentation, eh bien que votre foi ne défaille point. Est-ce que vous croyez que le Seigneur a prié pour vous? Est-ce que vous croyez que le Seigneur dort maintenant? Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il est là, debout, à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour vous. Et les prières du Seigneur sont exaucées par son Père. Je sais, disait Jésus, que tu m'exauces toujours. Oh, qu'il est précieux de savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour vous individuellement. Oui, vous avez une valeur pour le cœur de Dieu, pour le cœur du Père. Quelle est cette valeur? Jésus est mort pour vous. Et alors c'est là la valeur que vous avez pour moi. Quand je vous regarde, je me dis, mais qu'ils sont précieux au cœur de Dieu. Vous êtes des gens pour lesquels Christ est mort. Donc vous devez avoir une valeur infinie pour le cœur de Dieu. Alors que devenez-vous pour moi? Il y a des personnes qui ont beaucoup de valeur. Des personnes qui ont un grand prix pour mon cœur. Et quand vous me voyez dans toute ma misère, vous pouvez aussi vous dire que le Seigneur m'a aimé et qu'il a donné sa vie pour moi, un misérable, mais qui a reconnu ma misère et qui sait maintenant ce que c'est que la miséricorde et qui voudrait avoir un cœur de miséricorde pour les autres. Je souligne d'abord cette pensée, vous avez en partage une foi du même prix que celle des apôtres. La foi qui pouvait animer les premiers chrétiens dans l'Église primitive, c'est la foi qui peut nous animer aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'évaluation. Et cette foi, nous l'avons comment? Parce que nous la méritons. Nous l'avons reçue par la justice de Dieu, de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Oh, que c'est merveilleux. La justice de Dieu. il a voulu que vous ayez les uns et les autres cette foi. Il a voulu vous la donner. C'est là que se manifeste sa justice. Si vous ne la voulez pas, si vous rejetez la foi, eh bien, est-ce que c'est la faute de Dieu? Il vous laisse libre. Mais ce n'est pas à cause de vos justices qu'il vous donnerait la foi. C'est à cause de sa justice. Dieu est juste et il ne condamne personne parce que nous sommes nés pécheurs. Mais étant nés pécheurs et nous ayant offert sa justice, si nous refusons cette foi qui nous permet de nous approprier la grâce de Dieu, mais c'est nous qui manifestons notre injustice. Dieu est juste et personne ne sera condamné parce qu'il est né pécheur. Mais étant né pécheur, si nous refusons la grâce de Dieu, si nous refusons cette foi que nous donne sa justice, alors nous-mêmes, nous excluons de ce si grand salut de Dieu. Eh bien, je veux croire que personne ne ferme son cœur à la grâce qui le sollicite, mais qu'au contraire, vous recevez de la justice de Dieu cette foi. Je crois. Que la grâce, dit l'apôtre, et la paix vous soient multipliées. Oh, cette grâce qui nous a sauvés, nous en aurons encore besoin. Vous en aurez besoin sur le chemin, vous en aurez besoin ce soir même, en retrouvant peut-être des membres de votre famille. Vous en aurez besoin dans la nuit, vous en aurez besoin demain à l'aube, si nous voyons la journée, vous aurez besoin de la grâce. Est-ce que vous l'aurez? La prière de Pierre est exaucée, que la grâce ou soit multiplié. De la plénitude que nous a apporté Jésus, nous recevons, dit l'Écriture, grâce sur grâce. Certains parmi vous ont besoin d'une certaine grâce. Eh bien, croyez qu'elle est pour vous. D'autres ont besoin d'une autre grâce, tout à fait particulière, selon leurs besoins. Et cette grâce est aussi pour vous. De sa plénitude, nous recevons, nous tous qui sommes ici, grâce sur grâce. Moi, je ne sais pas de quelle grâce particulière vous avez besoin, mais lui, le sait. Et si votre cœur s'ouvre au Seigneur, vous recevrez la grâce dont vous avez besoin. Lui ne se trompera pas. Mais nous n'avons pas besoin seulement de la grâce. Nous avons besoin de la paix. La paix. Oh, que la paix de Dieu, c'est paix qui garde nos pensées qui si souvent se troublent, nos cœurs qui si souvent s'agitent au sein de toutes les circonstances dans lesquelles nous devons vivre, eh bien, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, va garder vos pensées en lui. Que notre cœur soit vraiment captivé par Jésus. Et si notre cœur est captivé par Jésus, nous connaîtrons la paix que Jésus donne. La paix que Jésus donne. Dans la nuit où il a institué la Sainte Cène, que d'autres appellent l'Eucharistie, c'est-à-dire la suprême action de grâce, dans cette nuit-là, Jésus a pu dire à ses disciples, alors que lui allait au-devant de son arrestation, allait au-devant de la mort, de cette mort ignominieuse de la crucifixion, qu'est-ce qu'il a pu dire à ses disciples? Que votre cœur ne se trouble pas. Voulez-vous recevoir cette parole de la part du Seigneur? Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Et moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Ah, le monde. Il nous fait croire qu'il nous donne quelque chose. Mais c'est pas vrai, il ne nous donne rien. Il nous prend. Il nous possède. Tandis que Jésus, il nous donne sa paix. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vous donne ma paix. eh bien, cette paix, qu'elle vous soit multipliée. Et par quoi? Comment est-ce que la grâce et la paix peuvent nous être multipliées? Il n'y a qu'un secret, par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, de quoi avez-vous besoin pour avoir la grâce et pour avoir la paix? Qu'est-ce qui vous est nécessaire? Qu'est-ce qui est à votre portée? Apprendre à connaître toujours mieux Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et son Fils unique. C'est par la connaissance du Seigneur Jésus que nous aurons de plus en plus les grâces dont nous avons besoin et la paix qui nous maintiendra heureux et ferme en toutes circonstances, confiant dans les promesses de Dieu. Oui, après des années de vie avec le Seigneur, ce Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul, alors qu'il est en prison à Rome, peu de mois même avant de passer par la mort, eh bien, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, moi, ce qui me préoccupe, c'est d'apprendre à connaître le Seigneur. Le connaître, lui, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. C'était un thème que nous avons traité en trois retraites ici. Vous vous en souvenez dans Philippiens? On dit, mais Paul, est-ce que tu ne le connais pas? Vous me direz, mais vous nous avez dit des choses, mais nous les connaissions. Pour le connaître, lui, disait Paul, à la fin de sa course, je voudrais encore le connaître. Je voudrais connaître davantage la puissance de sa résurrection, cette puissance qu'il a fait sortir de la mort. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait cette puissance? Pour entrer dans la communion de quoi? De ses souffrances. Parce que dans ce monde, chers amis, et Paul le savait, il allait au-devant de grandes souffrances et il avait besoin de puissance pour souffrir. Nous, nous voudrions de la puissance pour faire des grandes œuvres. Je le répète encore une fois, nous avons besoin de puissance pour souffrir. Parce que si vous vivez la vie vraiment chrétienne, eh bien le monde vous haïra. Parce que vous ne serez pas comme le monde. Et simplement de ne pas faire comme le monde entraînera pour vous de l'incompréhension et des persécutions parce que vous deviendrez des gêneurs et un jugement. Parce que vous ne faites pas comme tout le monde fait. Vous ne serez pas amis du monde, hein, mais vous serez comme Abraham, ami de Dieu. Car l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Il faut faire son choix. Est-ce que vous voulez être ami du monde? Alors faites comme le monde. Ou bien est-ce que vous voulez devenir ami de Dieu? Alors, c'est comme Abraham. Il croit Dieu, Dieu lui suffit, et ses expériences, il les fait avec son Dieu. Vous ferez des expériences avec Dieu. Vous pourrez vous réclamer de Dieu. Je ne sais pas, ça serait une belle amitié, être ami de Dieu. C'est mieux qu'être ami de M. Trudeau. Hein? Être ami de Dieu. M. Trudeau, on ne sait pas s'il va partir. Alors, ça sera peut-être plus rien bientôt, tandis que Dieu, il nous reste. Être ami de Dieu. Puis, verset 3. Sa divine puissance. Prenez cela pour vous. C'est une lettre qui vous est écrite, c'est un message qui doit entrer dans votre cœur. Sa divine puissance nous a donné. Est-ce qu'il est dit nous donnera? Non, vous l'avez, mais à vous de vous en saisir par la foi, ça est là. Et je trouve que c'est misérable, je suis un misérable, nous sommes des misérables. La puissance est là. Tout est là, tout nous est donné, mais nous ne nous en saisissons pas. nous passons à côté. Et nous nous épuisons à toutes sortes d'efforts, alors que nous pourrions venir au Seigneur et prendre possession de nos biens, de ce qui est là, comme cette divine puissance nous a donné. Quelques petites choses. Qu'est-ce que vous lisez? Tout. Est-ce que vous le croyez? Sa divine puissance vous donne tout, et c'est déjà donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à cette vie de foi dont nous vous avons parlé. Tout vous est donné pour que vous puissiez réaliser la vie de la foi. Tout vous est donné pour que vous puissiez réaliser vraiment cette piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? C'est ce qui caractérise notre relation avec Dieu. La piété, c'est notre relation avec Dieu. Eh bien, pour que vous soyez en relation avec Dieu, tout vous a été donné. Quel mystère, hein? Le mystère de la piété. Pour qu'on puisse être en relation avec Dieu, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que Dieu nous donne son Fils. Car c'est par son Fils qu'on peut être en relation avec lui. Le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair. Dieu s'est fait homme pour que les hommes puissent être en relation avec Dieu. Et il a tout accompli pour établir cette relation avec notre Père des cieux. Maintenant, comme nous le disions dans la prière, nous ne sommes plus des orphelins. Mais si vous voulez savoir quelle peut être votre relation avec le Père des cieux, voyez la vie de Jésus. Est-ce qu'il avait un bon Père? Bien qu'il se plaignait de son Père. Il parlait de son Père avec un tel amour que ceux qui l'écoutaient et qui recevaient sa parole désiraient vraiment le suivre. Eh bien, de sa divine puissance, nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais au moyen de quoi? Au moyen, de nouveau, de la connaissance. Donc, vous voyez que Paul a une pensée juste quand il disait, que ça c'est Pierre qui parle, qu'il voulait le connaître, lui. Tout est là. C'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Vous avez été appelé? Est-ce qu'il vous appelle? Et pourquoi est-ce qu'il vous appelle? Parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose de bien en vous, de bon en vous. Vous aviez toujours de belles pensées? Non. Il vous a appelé par sa propre gloire. C'est sa gloire à lui. L'appel est venu de son côté. Il a désiré vous avoir pour lui. C'est à cause de sa propre gloire. Je veux être glorifié dans ces hommes. Je veux être glorifié dans ces femmes. Eh bien, je les appelle. Et cet appel vient, non pas de ce qu'il a vu en vous, mais de ce qui est en lui, sa propre gloire. Et la gloire de Dieu, c'est l'ensemble de toutes ses perfections. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? C'est l'ensemble de toutes les perfections divines. Sa justice, sa sainteté, sa lumière, sa vérité, sa grâce, sa puissance. C'est en vertu de cette gloire que vous avez été appelés. Et il vous a appelé par sa gloire et par sa vertu. La vertu en Dieu, c'est justement la force divine. Il y a une force divine qui vous a appelé. Est-ce que vous l'avez éprouvé? Le Seigneur, voyez-vous, il est comme un aimant et qui cherche à vous attirer à lui. Laissez-vous attirer à lui. Que la puissance de cet aimant vous attire. C'est par sa vertu qu'il vous appelle. Et cette gloire et cette vertu, il est dit que elle vous assure sa gloire et sa vertu, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous allez partir, vous vous dites, oui, ici on était bien, On était dans un milieu favorable, mais maintenant nous allons nous retrouver dans le monde avec toute cette hostilité du monde. Eh bien, le Seigneur y a pourvu, il vous a dit, il vous assure. N'espérez pas quelque chose, mais soyez assurés, c'est ça la foi. C'est sa propre gloire et sa vertu vous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Quelles sont ces promesses? Est-ce que vous les connaissez? Prenez une feuille de papier ce soir quand vous entrerez chez vous à la maison. Puis mettez promesses de Dieu. Hein, puis essayez de chercher les promesses de Dieu dans l'Écriture. Vous y passerez la nuit. Et puis vous n'aurez pas fini. Les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, elles sont véritables, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ça, j'en témoigne de tout mon être. Et Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et nous pouvons en rendre témoignage. De notre côté, tout est faiblesse, mais de son côté, tout est puissance, vérité, force et fidélité. Il nous assure les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Vous rendez-vous compte? C'est quelque chose de nous. Ces promesses vous assurent de la part de Dieu que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez participants de sa propre nature. Ce qu'Adam lui-même n'avait pas, même en Éden, avant la chute. Vous pouvez l'avoir, même après la chute, et après avoir reconnu que vous étiez pécheur perdu, le Seigneur peut vous donner cette participation à sa nature divine. Sa nature divine qui est son essence. La nature divine. Et vous savez que cette nature est sainte, cette nature est juste. C'est le Dieu de lumière. Il veut que vous participiez à sa nature. Mais en faisant quoi? Comment est-ce que vous pouvez participer à cette nature? En fuyant. Il y a quelque chose que vous devez fuir. Et nous ne voudrions pas vous laisser partir sans vous avoir dit, vous devez fuir quelque chose. Nous voudrions vous mettre en garde, jeune ou plus âgé. Si vous voulez réellement que bénéficier de toutes ces promesses, il y a quelque chose qu'il vous faut fuir. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je n'ai pas à m'allonger là-dessus, j'ai à vous demander de vous pénétrer de ces choses. Fuyez la corruption qui est dans le monde. Ne vous me direz, le monde, il n'est pas si corrompu que cela. Vous trouvez? Le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce que les gens aiment dans le monde? Écoutez un peu les conversations. Hein? Il y a la corruption dans le monde. Et le diable, lui, il établit son pouvoir sur nous en flattant quoi en nous? Nos convoitises. C'est toujours en flattant nos convoitises que le diable établit son pouvoir. Alors, refusons cette corruption. Mais si je pénètre mes yeux, si je fixe mes yeux constamment sur ce qui est la corruption du monde, qu'est-ce que ça éveille en moi? Même que je suis chrétien, qu'est-ce que ça éveille? Vous croyez que je suis de bois? Vous croyez que je suis de marbre? Je suis de chair. Même converti, je suis encore de chair. Et qu'est-ce qu'il y a dans la chair? Des comptes. Alors, si je mets la corruption devant mes yeux, qu'est-ce que ça éveille? La convoitise. Alors, il n'y a pas de miracle après. Quand vous priez, ne nous induis pas en tentation. Cette prière que j'aime beaucoup, mais je me dis, les gens la répètent, ça se dit jour et nuit, hein, cette prière chez notre Père. Ne nous induis pas dans la tentation, mais qu'est-ce que vous voyez? Les gens courent vers la tentation. Et puis après, ils pensent que le Seigneur allait délivrer du mal. Et ils y sont déjà dans le mal. Puis après, ils souffrent des conséquences du mal. Alors, ce n'est pas nécessaire si vous fuyez la corruption qui est dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. S'il y a un effort à faire, c'est seulement de ce côté-là. Pour joindre à votre foi. Vous avez la foi. Vous avez cru au Seigneur Jésus. Je veux le croire. Est-ce que vous avez reçu cette foi? Est-ce que vous croyez maintenant aux paroles de Dieu? Si vous le croyez, eh bien maintenant, joignez à votre foi. Quoi? Et c'est là que nous voyons le caractère réellement de la vraie foi. La foi n'est pas toute seule. Nous ne sommes pas seulement des gens qui croient au Seigneur Jésus. Mais nous joignons à cette foi, quoi? La vertu. Qu'est-ce que c'est la vertu? La vertu en Dieu, c'est la force divine. Mais la vertu en nous, c'est cette puissance de Dieu, cette force qui n'est pas dans notre nature, mais qui nous est donnée, qui vient de la foi, puisque tu dis que tu veux me donner ta force, Seigneur, que tu veux me faire participer à ta nature, qui est une nature de puissance, eh bien, je crois. Et alors, je joins à ma foi la vertu, c'est-à-dire la force, qui me fait dire non à certaines choses. Et il faut savoir dire non. Oui au Seigneur, mais non à ce monde. Il faut savoir dire non, joindre à notre foi la vertu. Et à la vertu, qu'est-ce qu'il faut joindre encore? Vous voyez que ça revient. La connaissance, cette connaissance toujours plus intime de la personne du Seigneur, une connaissance personnelle du Seigneur. Et ne me dites pas, bien dans mon église, nous n'avons pas des prédications qui nous aident beaucoup à entrer dans la connaissance du Seigneur. Vous avez la possibilité, vous-même, d'apprendre à connaître le Seigneur. Vous avez une vie intime avec lui. Vous avez sa parole. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la prière. Et la prière de la foi, quand vous demandez au Seigneur, donne-moi l'intelligence pour comprendre cette parole. Est-ce que c'est une prière question de la volonté de Dieu? Quand vous dites au Seigneur, donne-moi l'intelligence pour comprendre ta parole. Est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Mais bien sûr. Alors il est dit que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons, non pas que nous aurons, mais que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Alors, joignez à votre foi la connaissance. Puis à la connaissance, la maîtrise de soi. Les autres versions disaient la tempérance, c'est-à-dire cet équilibre en toutes choses, être maître de soi. Celui qui est maître de soi vaut mieux que celui qui prend des îles. Avoir cette maîtrise de soi, ne pas être dominé par le moi, mais pouvoir le dominer. N'être pas dominé par nos sens, mais pouvoir dominer nos sens, la maîtrise de soi. Puis, à la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'il faut joindre? La patience. Eh bien, on en a parlé, vous avez des exemples maintenant de ces hommes qui vivent autour de vous, quoique morts. Abraham a eu de la patience. Et puis, à la patience, la piété. C'est-à-dire, cultiver vos relations avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut cultiver nos relations avec Dieu? Par la lecture de la parole, en nous nourrissant de la parole, et puis par la prière. Par la prière. Et la communion fraternelle. Alors, à la piété, vous ajoutez l'amitié fraternelle. Ou la communion fraternelle, l'affection fraternelle. N'oubliez pas que vous avez des frères et des sœurs. Et si vous avez des frères et des sœurs, entrez en sympathie avec eux dans leurs épreuves. Si un membre souffre, tous les autres souffrent. Si un membre est glorifié, tous les autres se réjouissent. il nous faut manifester que nous sommes membres les uns des autres. L'affection fraternelle, ça concerne donc les membres du corps de Christ, ceux qui sont croyants. Et puis pour le monde entier, qu'est-ce que nous devons avoir? Qu'est-ce que nous devons joindre? L'amour. Dieu a tant aimé le monde. Et nous, nous avons encore à aimer les âmes qui sont dans le monde. Il nous dit, n'aimez pas le monde comme système, le monde avec ses convoitises, mais nous devons aimer les âmes qui sont dans le monde. C'est dans ce sens-là, l'humanité aime avoir de l'amour pour les âmes qui sont dans le monde. Alors, vous voyez que la foi, elle n'est pas toute seule dans le cœur. S'il y a la foi, eh bien, vous devez joindre à la foi toutes ces grâces qui sont énumérées ici et qui forment vraiment le caractère de la foi, le caractère chrétien. Méditez là-dessus et vous verrez que chez même des hommes de Dieu, ils ont eu des manquements, il leur a manqué une de ces grâces et ça a été pour eux une occasion de chute. À certains, il a manqué la vertu. Ils avaient la foi, mais ils n'ont pas eu la vertu. Je pense à Lot. Lot, quand il a dû choisir le lieu de sa résidence, il a été conduit seulement par ses sentiments charnels. Il lève les yeux, il voit les plaines de Sodome qui sont luxuriantes, et il est dit, il choisit pour lui. Sans se soucier des gens qui habitent à Sodome, qui étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Et il y plante sa tente pour finir, il entre dans Sodome, et qu'est-ce qu'il y perd? Tout. Il place ses enfants sur un faux terrain. Il a manqué de vertu. Et évidemment, une fois qu'il était à Sodome, bien sûr qu'il n'est pas tombé dans l'homosexualité, lui, ou dans toutes ses abominations, mais il est dit qu'il tourmentait son âme en voyant les méchantes actions de ses hommes. Il s'y était placé. Et alors, il pouvait tourmenter son âme juste, mais quand on met ses filles en contact avec ces gens-là, qu'est-ce qui va arriver à des filles? Elles sont des filles comme les autres. Qu'est-ce qu'elles voudraient faire un jour? Se marier. Alors, qu'est-ce qu'elles épouseront? Les gens de Sodome, qui ont ces mœurs corrompues, ça fera de beaux ménages. Hein. Oui, oui. Il a manqué de vertu. Et au fond, il était un piège pour ses enfants. Et puis, ensuite, alors, à certains autres, il leur a manqué la connaissance. Par exemple, aux amis de Job. Les amis de Job ont manqué de connaissance. Ils ont jugé Job alors qu'ils ne savaient pas pourquoi Job passait par ses épreuves. À d'autres, il a manqué la maîtrise d'eux-mêmes. Je pense à manquer de tempérance à Noé. Noé, c'était un homme de foi, mais pourtant un jour, il a bu trop du fruit de la vigne, il s'est enivré, et puis ça a été assez catastrophique dans sa famille. Et je pense aussi à David, qui ne s'est pas maîtrisé, n'a pas maîtrisé ses désirs, et il est tombé avec Bathsheba. Je pense aussi à Salomon, il a manqué de maîtrise de soi, lui qui était pourtant un grand sage, qui avait une grande foi, mais il s'est laissé aller à cet amour pour les femmes. Il a manqué de maîtrise de soi. Il y en a d'autres qui ont manqué de patience, même des hommes de Dieu, comme Moïse, bien pour avoir manqué de patience, un jour il s'est énervé à cause de ce peuple d'Israël. Il avait pourtant la foi, mais Dieu lui avait dit, tu parleras au rocher, et l'eau sortira. Au lieu de parler, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe deux fois le rocher. L'eau est sortie, hein? Parce que Dieu est miséricordieux, le peuple avait soif. Mais l'eau est sortie, mais Moïse a été repris sévèrement. Tu ne m'as pas honoré devant le peuple, tu n'as pas été un témoin là, tu n'entreras pas dans le pays. Et Moïse a supplié le Seigneur. Moïse a supplié le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ne me parle plus de cette affaire. Là, on n'a pas besoin de continuer de prier. Là. Il doit subir les conséquences. Mais Dieu, dans sa grâce, lui a montré le pays de loin, puis après, il l'a recueilli, puis il l'a enterré. C'est pas mal, hein? Dieu l'enterre. Dieu lui-même.
Et à d'autres, il a manqué la piété. Je vous le dis simplement pour que vous puissiez méditer. À qui est-ce qu'il a manqué de piété? Un de ces hommes que vous avez, dont le nom se trouve dans les 11 des Hébreux. Le plus fort des hommes. Samson. Hein? Mais il n'a pas cultivé sa relation avec Dieu. Puis il a pensé que ça irait toujours, que la force lui serait toujours donnée. Puis il manquait sa relation avec Dieu. Puis un jour, ben, il était comme un autre homme. Le Seigneur l'a restauré, il n'a pas perdu son salut. Mais qu'est-ce qu'il a perdu? Sa vue. Il est mort aveugle. Hein? Les cicatrices de nos manquements restent. Dieu restaure. Ce n'est pas nécessaire de tomber. C'est plus nécessaire de toujours tomber dans les mêmes fautes. Alors, méditez vous-même sur ce chapitre qui clôt vraiment ce que nous avons essayé de vous montrer au sujet de la foi. À la piété, l'amitié fraternelle, et puis à l'amitié fraternelle, l'amour, que nous ayons vraiment de l'amour pour tous. Car si ces choses, vous voyez, on va aller plus loin, mais rapidement, si ces choses sont en vous, et ils sont petitement en abondant, elles ne vous laisseront pas oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ferez des progrès. Ne pensez pas en même, moi, si j'avais un pasteur comme ça, j'en ferais des progrès. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Vous vous habitueriez. Hein? Et puis voilà. C'est quelque chose de personnel. Si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ferez vous-même des expériences avec le Seigneur. Mais celui en qui ces choses ne sont point, qu'est-ce qu'il est? Il est aveugle. Et il y a bien des gens qui sont aveugles. Il ne voit pas à loin. Quelqu'un qui ne voit pas à loin, comment est-ce qu'on l'appelle? Il est myope. Hein? Il y a beaucoup de myopes aussi. On ne voit pas à loin. Le Seigneur voudrait qu'on ait une vue et qu'il va loin jusqu'au bout des collines éternelles. Et puis même, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il ne voit ni devant lui, ni derrière lui. Il a oublié ce que le Seigneur a fait pour lui. Et alors, il n'y a plus de repentance. Mais vous vous souvenez, quand on a réalisé que Jésus est mort pour nous, qu'il est mort pour nos péchés, eh bien, ça nous a amené à une vraie repentance. Mais chaque jour, quand nous apprenons à nous connaître, nous disons au Seigneur, comme c'est vrai, j'avais besoin de me repentir. Et alors, sur chaque manquement que nous pouvons avoir dans la journée, nous portons le jugement de Dieu. Nous confessons notre péché et nous savons que le Saint-Esprit nous purifie par le sang de Jésus. Et la communion qui était interrompue quand le Saint-Esprit était attristé, eh bien, le Saint-Esprit est de nouveau joyeux en nous. Il peut nous approuver et on retrouve la joie de notre salut. On ne perd pas son salut quand on a un manquement, mais on perd la joie du salut. Et on perd cette bonne conscience qu'il nous faut conserver. Eh bien, que le Seigneur soit avec vous et que vous puissiez toujours joindre à votre foi toutes ces grâces. Et verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. On dira, mais puisque c'est ma vocation, puisque c'est mon élection, j'ai pas besoin de l'affermir, oui. Le Seigneur veut que vous travailliez vous-même maintenant à votre propre salut. Puisque vous êtes sauvés, eh bien, mettez en activité votre foi. Cette foi quotidienne qui va vous amener à vous juger journellement et à renoncer à vous-même. Le renoncement, au fond, c'est la repentance quotidienne. On renonce à soi-même chaque jour pour prendre notre croix. C'est ainsi que on affermit notre vocation. Qu'est-ce qui nous a donné cette vocation? C'est le Seigneur. Mais de notre côté, on l'affermit en agissant ainsi. Et on affermit aussi notre élection, on en jouit davantage, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Vous voyez qu'il y a une possibilité de marcher avec le Seigneur. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Vous ne serez pas seulement de ceux qui disent « Oh, mais moi, ça me suffit juste d'entrer par la porte de service. Pourvu que j'entre. Pourvu que j'entre. Pourvu que je sois sauvé. Je suis sauvé par la grâce. Ça me suffit. Pourvu que je sois sauvé. Je suis sauvé. Oui, je ferai une petite entrée. Mais ça n'a pas d'importance. Pourquoi est-ce que le Seigneur voudrait vous donner une large entrée, une riche entrée? C'est parce que cela le glorifierait. Parce que cela le glorifierait. Parce qu'on verrait ce qu'il a été capable de produire dans une âme. Ah, ce que le Seigneur est capable de produire dans vos âmes. Eh bien, dites au Seigneur, comme Marie pouvait le dire quand elle a été visitée par l'ange, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est pas Marie qui veut essayer de faire quelque chose, mais sa foi dit qu'il me soit fait. Au fond, servir le Seigneur, c'est se laisser faire par lui. Seigneur, maintenant, je veux me laisser faire par toi. Que la grâce du Seigneur nous soit donnée et que maintenant, nous puissions nous abandonner les uns les autres à la louange, à l'action de grâce, avoir ce moment de prière et de louange où vous êtes libre de vous exprimer devant le Seigneur.